Chers amis, on ne connaît pas la date de naissance de Saint-Ille ou Tillon ou Théo en français. On sait seulement qu'il était le jeune fils d'un des chefs saxons païens écrasé par le roi Clotaire II. À peine sorti de l'enfance, Théo fut enlevé de la maison paternelle par des brigands qui l'amenèrent aux Pays-Bas où il fut vendu comme esclave. Mais il eut la chance d'être acheté par Saint-Éloi, le bon Saint-Éloi de la chanson, avec plusieurs de ses camarades d'infortune. Ayant remarqué son intelligence, Saint-Éloi le baptisa et le confia aux moines de son monastère de Solignac dans le Limousin pour qu'il l'éduque et l'instruise. Bientôt, Théo fit des progrès étonnants dans toutes les connaissances enseignées, tout en se distinguant par ses vertus, sa douceur angélique, son affabilité et son humilité, ce qui lui attira l'affection et l'estime de tous les religieux. Mais plus tard, Saint-Éloi, qui était attaché à la cour du roi Dagobert en qualité d'orfèvre, fit venir Théo à Paris afin de lui faire apprendre le métier qu'il exerçait. Tout en travaillant, Théo avait toujours quelques livres de dévotion devant lui, afin d'occuper aussi son âme qui aspirait ardemment à la piété. En effet, il s'imposait les pénitences les plus rudes et passait des nuits entières en prière. Comme son plus grand désir était de posséder un cœur pur pour le Seigneur, il fit une confession générale de ses péchés. C'est alors que Saint-Éloi l'appela à la cour du roi Dagobert, où lui-même travaillait comme orfèvre afin de lui apprendre le métier. Nous venons de voir que Théo se montra un excellent apprenti orfèvre, mais qu'il montrait une vive préférence pour les choses spirituelles et le service du Seigneur. Aussi, quand Éloi fut devenu évêque de Noyon, ordonna-t-il prêtre son protégé. Il l'envoya alors à Solignac, l'abbaye de Saint-Éloi. Puis, il lui demanda d'évangéliser les Saxons établis aux Pays-Bas et dans la région de Courtrai, ville belge flamande située actuellement en France, au nord-est de l'île, tout en s'occupant des moines de Solignac dans le Limousin. Puis, quand Éloi mourut, Théo se retira dans la solitude. Mais sa sainte Octée, lui ayant attiré de nombreux disciples, il construisit un monastère à Brajac et porta le nom de Paul. Tout en travaillant, il se livrait à la contemplation et répétait souvent « Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger ». Théo, moine, recommandait avant tout à ses moines d'avoir une foi inébranlable en Dieu et en son Fils unique, et de se livrer constamment à la prière. Théo faisait beaucoup de miracles, et même après sa mort, plusieurs guérisons miraculeuses furent obtenues grâce à son intercession. La tradition nous dit que peu de temps avant sa mort, Théo envoya un jeune garçon chez l'évêque de Limoges pour lui demander de venir lui donner les derniers sacrements. L'évêque, qui était alors très malade, guérit instantanément et se rendit auprès de Théo. Après avoir reçu le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, Théo mourut doucement dans le Seigneur au milieu des larmes de ses religieux, rassemblés autour de son lit. Ceci se passa le 7 janvier de l'an 7 ou 702. Théo avait environ 94 ans. Saint Théo avait été un grand ascète. Mais quelle était sa spiritualité ? Un jour, les frères, réunis, lui demandèrent des instructions. Théo leur dit que, pour connaître tous les commandements de Dieu, les saintes Écritures suffisaient. Puis, il ajouta. Le mieux, c'est que les frères, chacun à tour de rôle, se confortent mutuellement par des paroles d'encouragement. Un autre jour, saint Théo enseigna. Quand tu entames une action, ne te laisse pas aller au relâchement. Persévère, continue ton travail et agis comme si tu n'en étais toujours qu'au début. C'est qu'en effet, courte est la vie humaine comparée à l'éternité. Les habitants d'Issegem, près de Courtrai, honoraient Théo comme leur apôtre. En Flandre, en Auvergne, dans le Limousin, plusieurs églises lui furent dédiées sous l'invocation de saint Théo ou saint Illo. Ces miracles arrivaient quand on l'invoquait près de son tombeau, là où se trouvait un tonneau d'huile dont le niveau ne baissait jamais. Aussi, de nombreux pèlerins emportaient de cette huile pour oindre un malade afin qu'il guérisse. Aujourd'hui, Saint Théo est encore invoqué contre les fièvres fulgurantes et les fortes toux des enfants. Voici maintenant un enseignement de Saint Théo particulièrement adapté à notre vie moderne. Je cite. Dans la vie courante, bien des gens s'investissent dans des choses éphémères, mais la plupart ne reçoivent rien en retour par rapport à ce qu'ils se sont dépensés. Et si nous comparons les éventuels gains avec les promesses de la vie éternelle, on voit à quel point les petits gains terrestres sont vraiment ridicules. Donc, mes petits enfants, ne vous laissez pas aller à faire tout à contre-cœur et ne vous attachez pas à la vaine gloire. Nous devrons donc toujours rechercher ce qui nous mène au ciel, la sagesse, le discernement, la droiture, la vertu, l'amour d'éveil, le souci des pauvres, une foi indéfectible en Christ, l'impassibilité de l'âme et l'hospitalité. En poursuivant ces buts ici sur terre, nous nous préparons une demeure dans le ciel, comme nous le promet l'Évangile. C'est pourquoi je vous exhorte avec force à ce que tous ensemble nous unissions nos efforts dans cette direction. Et Théo conclut, car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Leur grand tapage est en effet emporté en l'air par le vent, où il est sans effet. Toute l'armée ennemie sera anéantie sous nos yeux. Mes amis, avec Saint Théo, demandons au Seigneur le don du discernement des esprits, afin que nous puissions